Retrouvez chaque samedi 10h sur Radio Sophia Altitude l'émission Justice et Paix, animée par Domi.
École, catéchisme à Sainte-Rose-même.
Oui, nous étions au catéchisme au bout le mardi.
Une émission en partenariat avec Radio Bain-Saviel. Justice et Paix donne la parole au monde associatif, politique, social, sportif, culturel.
Je crois qu'il faut quand même que les. On puisse remettre l'agriculture aux mains des enfants.
Le sport est un vecteur de relations sociales.
Justice et paix, les problématiques sociétales avec une vision chrétienne.
Mais aussi marcher aussi vers Dieu, marcher vers un idéal, marcher vers un but.
À vous qui êtes à l'écoute de cette nouvelle émission de la Commission diocésaine Justice et paix, Dominique Mucherin avec vous. Nous diffusons aujourd'hui la deuxième partie du débat sur les droits de l'homme face à la réalité guadeloupéenne. Dans la première partie, nous avons entendu Robert Valérius et ce que nous disait aussi Monsieur Auton. Nous avons pu aussi écouter tous les échanges entre les personnes du public, toutes ces personnes qui étaient là, c'était très constructif. Et aujourd'hui, nous allons entendre l'autre invité qui est monsieur Gilles Lima.
Pas cette culture-là, mais je crois que c'est un Américain, un anonyme qui a dit « Si j'ai un dollar et que tu as un dollar, si on échange nos dollars, on a un dollar chacun. Mais si j'ai une idée et que tu as une idée, si on échange deux idées, nous avons deux idées chacun. » Et cet espace-là fait qu'il y a eu énormément de choses qui ont été dites. Je crois que sur la question du rapport de force qui a émergé grâce à monsieur aux lunettes noires, il m'a convaincue. Voilà. Mais j'ai aussi aimé l'intervention qui a rappelé que oui, rapport de force, on en fait le constat, mais il faut y mettre de l'amour. Il faut y mettre de l'amour. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a pas autre chose. On a beau chercher le monde sans amour, je ne vois pas ce que ça peut être. Mais en plus de l'amour, je crois qu'il faut y mettre aussi de l'estime de soi. Et ça, ça me paraît important. Il faut avoir une conscience de ce qu'on est, force et faiblesse, et estimer ce qu'on est. Moi, ça m'a fait mal d'entendre ce que vous avez dit, madame, par rapport à votre enfant. Pas parce que seulement je suis une maman, mais c'est que je suis noire, on est noir ici. Et cet enfant-là a avalé son truc. Elle a mis ça dans son mouchoir et en plus vous lui avez dit « ne dis rien du tout à ton papa ». Donc elle va vivre et peut-être aussi transmettre le fait que sur ces sujets-là de racisme où on est minoritaire, on n'a peut-être pas trop intérêt. Si on veut avoir nos diplômes, si on veut avoir un travail, si on veut avoir un logement, on a peut-être un peu intérêt à faire profil bas. Je ne suis pas sûre que ce soit la bonne solution, mais je comprends. Elle est jeune face à quelqu'un qui représente l'autorité. Mais n'empêche que ça fait la boucle avec ce que dit Robert Valérius. C'est la question de la mobilisation qui doit être collective ou individuelle. Collective, lorsqu'une personne qui n'est pas née en Guadeloupe se fait agresser, quelle que soit la couleur. Là, c'est un Haïtien, mais ça peut être aussi un Dominicain, un jeune métropolitain, peu importe, une personne qui se fait agresser. Justement, on doit être là et pouvoir se soulever. Ça me fait penser à la Genèse. Dans la Bible, ça commence bim par un meurtre. C'est un meurtre quand même, voilà. C'est un meurtre, ça commence comme ça la Bible, voilà. Et quelle est la question de Dieu? Qu'as-tu fait de ton frère? Et je pense que cette question-là, elle est là aujourd'hui, voilà, dans la relation individuelle et aussi collective. Elle est au cœur, il me semble, de la défense de nos droits et c'est fondamental parce que dedans il y a la mobilisation, oui, tu es gardien de ton frère, tu es responsable de lui et tu dois l'aimer. Alors après c'est le Nouveau Testament qui va dire tu as une obligation, c'est si tu dois l'aimer.
Voilà. Mais on va préciser parce qu'on connaît tout très bien, on va confondre l'église et Dieu, mais au Carmel là, derrière Edo là, ou lui, Lomeski, on connaît très bien. Parce que là où Haïtien, Guadeloupe, Jodla, ça va être. Parce qu'il n'y a pas considéré qu'on marche pied. Et si tu connais une petite histoire à Haïti, Jean Haïti, son grand pays, il n'y a qu'à respecter ça.
Absolument.
On lui a demandé de se mettre en retrait parce qu'il est noir. Parce qu'il est venu dans l'église là, il a servi le monde. Il dit mettez-vous derrière. Mettez-vous derrière parce qu'il est haïtien, parce qu'il est noir. Mais c'est ça qu'il fait, il est dans l'église Carmel. Il dit ça aux gens, peut-être que le monde n'a pas saisi ça. Il dit, on ne peut pas mettre en accusation l'église. Hein? Mais on a dit à un petit Guadeloupe en nous, c'est ça qu'il a fait, Jodla. Qui j'en peux demander au monde parce que qui est en contradiction avec moi. Je dis que les premiers hommes, c'était noir, c'est mon noir.
Oui.
Non, mais on peut faire débat avec ça. Qui j'en peux demander au monde parce que par rapport à la couleur, de mettre en retrait, les dimanches, parce qu'il y a trop de monde. Et toute la semaine, il y a une église là, quand on met le service. Mais le dimanche, comme l'église là plein, mettez-vous derrière parce que y a que vous couler. Mais c'est ça, il fait quand même.
Intervention de M. Gilles Lima, qui est diable et chef d'entreprise.
Quand même aussi voulu donner mon mot, d'autant que Robert a dit que tout le monde s'est exprimé, et contrairement à la dernière fois, je vais quand même donner mon point de vue un peu rapidement. Je ne pense pas qu'on est dans un problème de couleur. Je pense qu'on a beaucoup parlé, et en fait, pour moi, ce qui est le plus important à retenir, c'est la conscience. On peut essayer de mobiliser. Les personnes ne savent pas c'est quoi le but de la mobilisation, si les gens n'ont pas compris qu'on est noir et qu'on ne peut pas avoir ce genre de comportement, on va mobiliser ce qu'on veut, on n'arrivera pas à grand-chose. Après, pour ce qui est de la mobilisation, je pense pour ma part qu'il y a mobilisation et mobilisation, mais en tout cas, quelle qu'elle soit, il faut qu'elle soit nourrie de la prise de conscience. Et donc, depuis que vous parliez tout à l'heure, je pense beaucoup au Mahatma Gandhi, qui a lui aussi mobilisé avec l'amour. Et je suis content de prendre cet exemple-là parce que moi, évidemment, je ne me suis pas encore présenté, je suis diacre depuis quelques mois. Et donc, évidemment, mon positionnement est teinté et nourri de l'Évangile. Prendre un exemple comme celui-là montre que mobilisation, et que la mobilisation, effectivement, elle doit être empreinte de l'amour, tout simplement. Donc, je suis Gilles Lima, je suis donc diacre depuis bientôt un an, chef d'entreprise. Pour faire simple, c'est moi qui gère le réseau de bus Carolis de l'agglomération Centre. Je suis également président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et donc, c'est un petit peu avec cette vision-là que je souhaite vous partager. C'est dans cet esprit-là que j'avais fait la prise de la dernière fois. Je vais essayer d'être un peu plus synthétique la dernière fois parce que Robert m'avait dit tu as 10 minutes et 20 minutes après je suis encore en train de parler, donc j'ai un peu synthétisé. Mais j'ai quand même synthétisé parce que je pense que bon, c'est long et que ça va... Après, honnêtement, je pense qu'il y a matière à discuter derrière les sujets que je vais aborder, mais je ne sais pas si je dois aller dans le détail tout de suite. Enfin, c'est toi qui me dis, mais en tout cas, il est bien quand même de remettre un peu les choses dans leur contexte. Donc, la Guadeloupe est un territoire marqué par une histoire coloniale complexe. Elle fait face à des défis socio-économiques et environnementaux qui influencent profondément la lutte pour les droits de l'homme et le bien commun. Dans ce contexte, il me semble que l'Église catholique et les entreprises locales ont un rôle clé à jouer en promouvant les valeurs de solidarité, de justice sociale et de responsabilité environnementale. Il est tout d'abord essentiel de rappeler que l'histoire guadeloupéenne est profondément marquée par l'esclavage, aboli en 1848. Cet héritage continue de produire des effets durables, les inégalités économiques, les tensions identitaires, les sentiments d'injustice. Malgré la départementalisation de 1946, qui a permis une meilleure application des droits en alignant la Guadeloupe sur le droit français, les séquelles de la période coloniale restent visibles. Le droit à l'égalité est inscrit dans les textes, mais son application concrète demeure incomplète. Des droits fondamentaux, comme le droit à l'éducation, au logement, à la santé ou encore au travail, ne sont pas toujours garantis de manière équitable. Le taux de chômage, particulièrement élevé chez les jeunes, l'accès inégal aux soins, les difficultés liées au logement ou encore le très mauvais état des réseaux de transport, de distribution d'eau, sont autant d'éléments qui montrent que les droits économiques et sociaux ne sont pas pleinement assurés. L'environnement est une autre dimension cruciale des droits humains. En Guadeloupe, le scandale du chlordécone est un exemple frappant. Il affecte la santé publique, compromet l'accès à une eau de qualité et remet en question le droit fondamental à un environnement sain. À cela s'ajoutent des problèmes de gestion de déchets, de préservation de la biodiversité ou encore les conséquences du changement climatique. Ces défis environnementaux ne sont pas seulement écologiques, ils sont profondément sociaux, car ce sont les populations les plus fragiles qui en subissent le plus des conséquences. C'est essentiellement ce qu'on peut retenir de l'encyclique du pape Laudato Si. Le rôle de l'Église dans ce contexte, l'Église catholique à travers sa doctrine sociale, a un rôle important, me semble-t-il, à jouer, fondé sur des valeurs comme la solidarité, le bien commun, la justice sociale et la protection de la création. Cette doctrine fournit un cadre moral puissant pour répondre aux défis qui sont les nôtres. Historiquement, des prêtres guadeloupéens se sont engagés aux côtés des travailleurs agricoles pour dénoncer les conditions de travail indignes et promouvoir des réformes sociales. Aujourd'hui encore, l'Église peut agir à travers l'accompagnement des plus vulnérables, le soutien à l'éducation, la défense de la culture locale ou encore la sensibilisation à la justice environnementale. Elle encourage également le principe de subsidiarité, c'est-à-dire l'idée que les solutions doivent venir autant que possible des communautés locales elles-mêmes, avec l'appui des institutions. Un autre acteur clé de cette quête de justice sociale est celui du monde de l'entreprise, trop souvent perçu comme des entités purement économiques, voire des héritières de la logique coloniale d'exploitation. Les entreprises guadeloupéennes ont aujourd'hui l'opportunité de transformer cette image grâce à la responsabilité sociale des entreprises, ou RSE. La RSE, c'est la prise en compte par les entreprises des enjeux sociaux et environnementaux dans leur fonctionnement. Cela peut passer par la création d'emplois locaux, par des projets de soutien à des projets éducatifs ou culturels, à la protection de l'environnement ou encore l'inclusion de publics fragiles dans le monde du travail. Même si la mise en œuvre de la RSE reste encore timide en Guadeloupe, des initiatives existent. Certaines entreprises investissent dans les énergies renouvelables, d'autres soutiennent des projets associatifs ou s'engagent pour l'insertion professionnelle des jeunes. Mais pour que cet engagement soit crédible, il doit être sincère, transparent et visible. Il s'agit de démontrer que l'entreprise n'est pas un prédateur, mais un partenaire du développement local. Un des obstacles à cet engagement reste peut-être la perception qu'a une partie de la population guadeloupéenne des entrepreneurs. L'histoire coloniale, les inégalités persistantes, les abus passés au présent ont laissé une image souvent négative du monde des affaires. Changer cette perception est un défi. Il exige des entrepreneurs qu'ils sortent de leurs réserves, qu'ils agissent concrètement pour le bien commun et qu'ils collaborent avec les autres acteurs de la société, notamment l'Église et les associations locales. Car, il faut le rappeler, les entrepreneurs chrétiens sont aussi appelés à vivre leur foi à travers leurs pratiques professionnelles. Dans cette perspective, un rapprochement entre l'Église catholique et les entreprises locales peut constituer une voie prometteuse. Chacun de ces acteurs a ses propres forces. L'Église dispose d'un ancrage moral et social fort, tandis que les entreprises ont les moyens d'agir concrètement sur le terrain économique. En unissant leurs efforts autour de valeurs partagées comme la dignité humaine, la solidarité, la justice sociale ou encore la responsabilité environnementale, ils peuvent bâtir ensemble une société plus inclusive et durable. Cela signifie agir pour réduire les inégalités, améliorer les conditions de vie, offrir un avenir aux jeunes, protéger l'environnement et faire en sorte que les droits humains soient respectés dans leur diversité et leur dimension locale. En conclusion, je dirais que la Guadeloupe fait face à des défis profonds, issus à la fois de son histoire et de ses réalités contemporaines. Pour y répondre, il ne suffit pas d'appliquer des modèles venus d'ailleurs. Il faut inventer une voie guadeloupéenne des droits de l'homme, ancrée dans la réalité de notre territoire. Ce chemin passe par une mobilisation collective, où chacun peut jouer un rôle. Ensemble, il est possible de faire émerger une société plus juste, plus solidaire et plus respectueuse de l'humain et de la nature. C'est, me semble-t-il, ce projet commun qui peut donner un nouveau souffle aux droits de l'homme en Guadeloupe. Merci de votre attention.
Radio Sofaya, la Caraïbe en altitude. Sofaya, altitude.
Pour ceux et celles qui nous rejoignent maintenant, nous écoutons la deuxième partie de la conférence débat qui a eu lieu à Basse-Terre avec la Commission diocésaine Justice et Paix sur les droits de l'homme face à la réalité guadeloupéenne. Nous venons d'entendre le diacre Gilles Lima et nous nous rappelons qu'en première partie, nous avons entendu Robert Valérius et par la voix même de Robert Valéus, Claude Auton.
Tu as rappelé l'histoire complexe de la Guadeloupe. Complexe, on peut rajouter douloureuse, hein. Violente, on peut rajouter aussi, hein, d'accord. Une histoire dont les stigmates sont encore très présents et qui viennent impacter la question des droits de l'homme. Bien sûr, hein, on revient sur l'accès aux soins, l'accès à une eau potable, l'accès à un environnement sain. Donc autant d'atteintes aux droits fondamentaux. Tu as rappelé que ce sont les populations les plus fragiles qui en subissent les conséquences, mais aussi que, historiquement, des prêtres guadeloupéens ont pu s'engager auprès des plus fragiles. C'était important de le dire parce qu'ils n'étaient certainement pas majoritaires, mais ils l'ont fait. Alors, l'entreprise comme acteur clé de la justice sociale, enfin, c'est intéressant. Les entreprises locales qui prônent les notions de responsabilité sociale de l'entrepreneur, qui s'investissent sur des projets locaux dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'environnement, de la jeunesse, et donc globalement des entreprises qui doivent être aujourd'hui perçues comme des acteurs du développement local. Ces entrepreneurs tentent au sein de l'Église de changer la perception de l'entrepreneur, de leur business. Ils sont porteurs de valeurs telles que la dignité humaine, la solidarité, la responsabilité environnementale. Et globalement, ils contribuent à mettre en œuvre une justice sociale et un développement local plus équitable et plus respectueux à la fois de l'homme et de son environnement. Voilà en liminaire ce que j'ai retenu de ton propos. Eh bien, je vous laisse la parole.
Rappelez-moi un prénom. Gilles. Après, on nomme l'église. Attends, bon, là, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire?
Pour faire un peu court, l'église considère qu'elle forme des prêtres avec une mission particulière qui est très, très importante et pour laquelle ils font des années d'études. Et puis, à côté de ça, ils ont besoin d'hommes qui ont une culture, mais qui surtout sont ancrés dans le monde, donc dans la société. Alors, malheureusement, surtout en Guadeloupe, il y a eu des critères de sélection qui font que beaucoup de diacres du département sont à la retraite. Mais l'objectif premier, c'est de porter le Christ et l'Évangile dans la société. Et donc, en général, les diacres sont soit dans les entreprises, soit dans les associations, avec l'idée justement de porter la lumière de l'Évangile sur les problèmes qui sont dans le monde. Et donc, voilà pour répondre à ta question. Et puis, de manière plus, religieuse, un diacre peut faire ce que fait un prêtre globalement, sauf la confession et sauf évidemment la consécration des hosties. Mais il peut présider les mariages, des funérailles évidemment comme les laïcs et faire des baptêmes également. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
J'ai parfaitement compris. D'accord.
Alors je vais juste porter une précision parce que j'ai entendu une réflexion là, pas forcément marié. Donc il y a des diacres qui sont célibataires. En Guadeloupe, il y en a deux. Un qui délibérément a voulu être diacre en étant célibataire et un diacre qui était marié et qui est devenu veuf. En sachant que les diacres, une fois devenus veufs, ne peuvent pas se remarier. Juste une précision pour répondre à sa question. Donc effectivement, un des signes distinctifs du diacre, c'est qu'il porte l'étole croisée sur l'épaule.
Ok. Vous répondez à la question. Moi, bon, on est pas vraiment venu m'apprendre un jeu de là. Hein. Bon. Alors, un pays aussi long que la dernière fois là. Hein, bon. On dit des mots qui sont fondamentaux pour moi dans ça, nous crier le respect des droits de l'homme. On a des mots qui, pour moi, qui sont fondamentaux, qui ont fait que si nous parlons des droits de l'homme, quel que soit le système là où tu es payé, à partir du moment que ces mots-là sont remettés devant, d'après moi, nous ne pouvons pas poser ces problèmes. C'est altruisme, ça nous croit qu'il y a l'altruisme, c'est-à-dire changer, penser à l'autre là. L'empathie, en français, je sens que créole, on va trouver peut-être que bon. L'empathie, c'est qui genre. Essayez de mettre en place à mon qui en face à là pour comprendre et répondre à besoin et aussi. Alors, on a la chance d'être dans le social depuis longtemps, à ka côtoyer, à ka voir, en très content de métiers moins de ça en café. On a un mot qui est fondamental pour moi, c'est respect de l'autre. Respect de l'autre. L'altérité, c'est rapport à l'autre aussi. C'est-à-dire que toujours voir mon qui en face à là dans le social, à ka côtoyer mon. Quand il y a l'encontre à monde tous les jours, quand il y a des gens qui sont dans des situations pas possibles, Et on a toujours dit, collègues, à moi, quel que soit mon nom qui est en face à là, il mérite respect. Pas j'en vois inférieur à vous. Parce que pour mon nom, pas l'abri d'une déchéance dans la vie. Ou peut prendre un coup de limbé ou bien n'importe qui mette un peu de temps à niveau. C'est peut-être ton lot qui est aidé. Et là, vous en tellement d'accord avec les autres, avec l'amour, là, vous n'aurez pas dit des mots là, ça. Mais en pas forcément d'accord avec la religion, hein. Mais l'amour, c'est un mot qui est fondamental. Depuis où on met, d'après moi, on ne doit pas être fait tort à l'autre là. Mais des moments aussi, on peut comprendre que on aime, hein. Mais on est aux gens qui ont imposé, les gens qui ont voulu les choses. Et souvent, les politiques qui ont fait ça. Est-ce que nous, meilleurs qui trompent, en dévelé, peut-être moi, cerveau, il peut comprendre que j'ai une grave évolution dans le monde. À penser qu'il est plus mauvais que moi. Mais nous, gens, il y a des gens qui ont vu le monde et qui ont dit moi qui peut-être fait passer aux gens. Mais pas rien qui trompe. Ou ni un Macron qui sont phénomènes aussi. Donc, tout simplement, pour dire, pour moi, ces mots-là, ça, à partir du moment que nous mettons devant, d'après moi, nous éviter un long problème. Et nous, ça nous a créé, puisque nous avons parlé des droits de l'homme, ni un bien dans les trois mots français qu'on met devant, liberté, égalité, fraternité, mais je parle surtout d'égalité. C'est-à-dire, en une des mondes, dans un travail à moi, quand on a côtoyé, qui a dormi en la rue, qui n'a très peu les moyens de souvenirs à besoin, on n'a pas jamais pensé un instant qu'un supérieur à eux. En là, je m'accompagne à eux. Et on a apprendre dans l'autre d'eux aussi. On a apprendre en l'autre. Il ne faut pas jamais penser que un supérieur à eux, on a apprendre de là. Quel que soit mon encore côtoyé là, ou qui porte bail, et c'est ça nous voit que les relations sociales qui fait que lui qui porte bail, il faut qu'il porte bail. C'est comme ça qu'on ouvre, on ne parle pas de système politique ni de ça, hein, mais de manière très, très, très terre à terre, rapport humain en nous, c'est commencer à respecter ta là qui est en tout là. Et d'après moi, ça qui est raide hein, pour nous arriver là. Parce que nous allons penser, mot là simple, respect, mais là, on va parler de ça. Sous, quand on garde sans ça, même, à partir du moment où ça fait ça, où j'en fais un grand pas dans la vie. Merci, c'est votre niaise.
Moi, je vais porter un témoignage. Moi, en fait, dans la violence, et moi-même, en forme, moi-même, parce que je suis une autodidacte, papa, moi, foutez ma maman, il est détimon, il faut que je m'aille abandonner nous. Alors, il pas respecter les lois de l'homme. Et ça qu'a fait toujours en Guadeloupe. Des hommes qui ont fait Timouine, qui ont fait Kouachimaïe, ces femmes-là, tout seul. Ça, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux du tout. Tu as parlé du diacre. Ça qu'a fait un plaisir. Moi-même, j'ai une formation diaconale. Hein. Je n'ai pas voulu porter la robe. Mais diaconie vient du mot service. On est des diacres sans tablier. Moi, j'ai fait funérailles. J'ai resté 30 ans président de l'aumônie des malades. J'apporte la communion pour les malades. En complant l'église là.
Ni on vit nous a dit parfois aussi que en passant moi en paix mes missions en paix mes missions. Moi rapporte son exemple bien simple. Nous devons aimer tout le monde, nous devons aimer Paul, Jacques, Pierre, tout le monde. Par contre, en qui dissocier les mots, on peut apprécier comportement à tout le monde, mais on devons aimer tout le monde. Merci.
Alors, faut pas oublier Ambitain. Hein? Les jours nous que faire grand passage là, nous qui aille devant Maudier, il permet de nous montrer tout diplôme nous trapper. Hein? En seule question que posez nous, est-ce que vous aimez et qui j'en ai aimé pendant que tu es sur la terre?
As-tu aimé ton frère?
Qu'as-tu fait de ton frère?
Radio Sofaya Altitude,
la radio de votre cœur.
Là, on a une démarche d'entrepreneurs chrétiens, c'est-à-dire des gens qui sont dans le business quand même. Ça veut dire que tout en chrétien, on reste quand même des entrepreneurs qui souhaitent faire fructifier en fait hein, leur entreprise, mais qui avancent quand même avec des valeurs. Est-ce que la même démarche existe dans d'autres domaines? Par exemple, pour le social, on a l'impression qu'il est tout à fait naturel, enfin on prête aux acteurs sociaux, on présuppose que les acteurs sociaux sont empathiques, aiment leur prochain, ont de la de l'altérité, sont altruistes, etc. On présuppose que les soignants sont également empathiques. C'est pas si évident que cela. Là, on a une démarche dans un secteur de la vie économique de la Guadeloupe où des gens ont décidé de ne pas avancer masqués. Quoique,
on ne sait pas, hein, quand on va acheter son pain, si on a affaire à un boulanger chrétien. Ou, et puis tant mieux d'ailleurs, parce que le marché est ouvert. Le marché est ouvert, hein. Mais dans d'autres domaines, je pense à des secteurs où on va présupposer qu'il y a de l'altérité, qu'il y a de l'empathie, qu'il y a de l'amour. Ce n'est pas si évident que ça. Et du reste, ce sont des secteurs où on demande aux professionnels de ne pas mettre en avant leur étiquette religieuse ou politique ou ailleurs parce que c'est souvent pour la qualité du soin ou de l'accompagnement. Voilà, monsieur a parlé de ces valeurs-là dans le domaine social. Je trouve que c'est intéressant qu'il l'ait dit parce qu'il avait commencé dans sa première intervention en disant « Moi, je suis athée ». Donc là, nous avons affaire quand même à des valeurs qui transcendent complètement l'homme, voilà, et qui sont universelles, qui ne sont pas captives seulement d'une démarche chrétienne ni d'un message évangélique. Nous avançons avec des valeurs en disant c'est parce que nous sommes chrétiens, mais dans le fond, est-ce que l'empathie, l'amour, l'altruisme, etc., dans nos vies professionnelles, dans nos relations de voisinage, est-ce que c'est nourri par notre foi, notre religion? Si ça l'est, est-ce que c'est pas fragile, hein? Est-ce que c'est pas circonstancié? Après tout, hein, j'aime bien les gens en général, mais je supporte pas le comportement de mon voisin. Son chien aboie toute la journée, etc. Enfin, voilà.
Quand on est dans ce genre de discussion, on a tendance à toujours penser que c'est un peu blanc, c'est un peu noir, et que forcément on est dans le blanc, etc. Tout ce qu'on a parlé là, c'est des choses qu'on se dit tous, il faut aimer son prochain, etc., qu'on soit croyant ou pas. La difficulté, c'est la pratique au quotidien, quoi. Là où je pense que, enfin, nous chrétiens en tout cas, on doit pouvoir porter des messages sans pour autant aller porter des signes distinctifs, etc. Et je vais revenir tout à l'heure sur la partie sociale. Je pense que chacun de nous, on est nourri par quelque chose. Alors, on peut être nourri par la passion, parce qu'on est, on a une vocation d'être dans le social, etc. Et c'est là où on trouve sa nourriture, c'est ce qui est le plus important. Parce qu'à la base, on a tous la même chose. En tout cas, moi, je parlais des entrepreneurs et dirigeants chrétiens tout à l'heure. Déjà, c'est un mouvement qui est œcuménique. Donc, il n'y a pas que des catholiques dedans. Il y a également des protestants, voire même une adventiste. On se rencontre une fois par mois. Je vis des choses extraordinaires. Les échanges qu'on a, les difficultés qu'on rencontre quand on ne sait pas comment on va payer des gens ou bien qu'on doit licencier quelqu'un et que l'évangile vous dit de lui donner une deuxième chance, une troisième chance, etc. On vit des choses extraordinaires et ça nourrit tout un chacun et c'est ça qui me paraît important. Pour revenir donc sur la partie sociale, je vais juste venir rapidement puisque j'ai ma fille qui est médecin gériatre au CHU de Pointe-à-Pitre et qui m'avait dit « Mais je ne peux pas ne pas porter ma croix. » Et je lui ai dit « Écoute, de toute façon, on ne te demande pas de mettre une croix visible pour que, ce soit visible. Reste, discrète et ça devrait passer. » Alors, ça ne veut pas dire que demain, on ne va pas lui dire de l'enlever, puisque la législation dit qu'il ne faut pas l'avoir. Mais c'est un peu ce qu'elle disait tout à l'heure. Les prêtres qui ont eu une certaine démarche il y a quelque temps, ils étaient minoritaires, peut-être même mal vus de leurs confrères, et là pour le coup c'était pas les colonialistes qui venaient, même leurs frères guadeloupéens. C'est des démarches qu'il faut faire, ça ne veut pas dire que ça marche, et en réalité, rien n'est facile. À partir du moment qu'on mène ces combats-là, il n'y a rien de facile. Je conclue en disant que moi, je pense que c'est un combat que je ne peux pas mener si je ne suis pas chrétien. Je vais m'arrêter là parce que je ne suis pas là pour dire qu'il faut être chrétien. Je dis juste que ce qui me porte, ce qui me permet de porter ces combats-là, c'est parce que j'ai une espérance. Mais il y a des personnes qui ont de l'espérance et qui ne sont pas chrétiennes. Elle l'a dit tout à l'heure, il y a des non-chrétiens qui ont fait des trucs extraordinaires. Je reviens encore sur Gandhi, qui est un gars qu'on a frappé, on a machin, etc. Il a fait des choses extraordinaires. Mais chacun est porté par quelque chose qui le mène vers le combat, vers la mobilisation, et surtout, une fois je le redis encore, la prise de conscience, on peut faire ce qu'on veut, il faut qu'on puisse éduquer, il faut qu'on arrête dans ce pays-là de nous monter les uns contre les autres, nous dire que celui-là, parce qu'il est ci, il est ça, machin, etc. Et je crois que c'est ce que m'a appris vraiment mon adhésion aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens.
À moi qui est parti, où tu allais là? L'arrivée là, l'entendre Claude Douton par là, entendre monsieur Otto par là, l'entendre prier là, en tout cas, il est parti. Mais encore, vous êtes sincèrement content de rester tout bonnement. et que ça a montré bien que bon, que on croyant, qu'on pas croyant, pas dit mater, on dit pas chrétien. Moi content tout bonnement en réalité. C'est des bonnes congiles qui permettent de d'être un petit sage aussi. Parce que bon, faut pas en tête à ou penser qu'on a raison, que non, faut nous discuter. Et c'est ça qu'on a dit tout le temps, hein. À dans ce pays là, ça nous y est là, là, nous prenons l'eau, hein. Déjà nous avons 400 000 gonnés là, ça a fait moins la peine. Mais on a quoi que bon, des petits contrées comme ça, avec des mondes divers, hein. Des mondes qui croient, des mondes qui pas croient, des mondes comme moi, des vagabonds comme moi aussi. Bon. Mais tout ça, moi, disons, je suis tellement content qu'on reste là. Ça a fait un plaisir. Et en cas parti, je suis plus riche. Puisque la richesse, ce n'est pas seulement l'argent, hein, c'est la connaissance. Pour moi, la plus grande richesse, c'est la connaissance. Et moi, après, nous l'ai là. Merci. En cas parti.
Nous allons applaudir pour ça.
Ce qui est important pour suivre ça, Gilles et Jacques dit, c'est que aimer, ce n'est pas simplement un verbe. Aimer, c'est concret. C'est pas simplement j'aime, ben j'aime bien Dominique, hein. Mais en cas embêté toute la journée, ou bien en cas giré toute la journée, ou bien que l'œil tombé, en pas ramassé. Ah, j'aime bien Dominique, hein. Ou bien j'aime bien Gilles, tu vois. Problème, aimer, c'est concret, ça veut dire aider. Aider l'autre. Il y a beaucoup de choses, hein, mais moi, pour moi, c'est premièrement regarder l'autre et le respecter. Deuxièmement, l'aimer. Nous sommes tous pécheurs, nous avons tous nos défauts, nous n'avons pas de qualité, mais. Ça, aimer, c'est aider, savoir reconnaître l'autre, savoir pardonner à l'autre aussi. Ça, c'est habiter là qui tire de là, c'est ça. Savoir avoir de la compassion pour l'autre, savoir l'aider à comprendre, à l'aider à la conscience des choses. Parce que ça ne s'agit pas simplement de te donner un coup de main, ceci, c'est l'aider à comprendre pour le sortir de là. C'est concret tout ça, c'est pas simplement dire je t'aime, tu m'aimes, bon d'accord, c'est pas ça. Même dans le couple, aimer, c'est quoi? C'est difficile aimer, hein? C'est très difficile aimer. Il est plus facile d'injurier ou de repousser l'autre. Mais l'aimer, ça veut dire qu'on le considère comme un frère ou comme une sœur. Et ça, c'est difficile. Le premier réflexe de l'homme, de l'être humain en général, c'est de se regarder soi. Alors, il faut se connaître soi. Il faut se connaître soi. Mais si on reste sur soi et qu'on ne va pas vers l'autre pour l'aider, pour le conforter, pour lui pardonner... Avoir de la compassion, ça ne sert à rien. Alors rassurez-vous, hein, personne n'est parfait. Si vous trouvez si la terre vous dit un monde qui est parfait, montrez-moi. Personne n'est parfait. La question, c'est au fur et à mesure, au contact des autres, au contact de l'autre, comment on s'améliore. C'est ça qui est le plus important. Et je crois que c'est fondamental aujourd'hui. Et ce que nous a dit Gilles, alors je ne dirais pas le diacre Gilles, je dirais Gilles, aujourd'hui est essentiel pour qu'on le comprenne. Dans divers domaines de la vie concrète. Et c'est encore plus difficile lorsqu'on est entrepreneur. Parce qu'effectivement, je comprends ça, on doit gérer une entreprise pour qu'elle soit rentable. Parce que si elle n'est pas rentable, on ne peut pas vivre. Mais en même temps, les efforts que font les entrepreneurs chrétiens, qu'ils soient catholiques, protestants, peu importe, c'est d'essayer de comprendre, me semble-t-il, comment on peut faire pour respecter la foi qu'on a, pour respecter les paroles d'évangile qu'on intègre dans sa vie. Et c'est ça qui est fondamental. Mais ça peut se partir dans tous les domaines, hein. Au niveau de l'entreprise, au niveau du social, au niveau de nos professions aussi, hein, de la mienne aussi, hein. C'est pas toujours évident. Mais l'important, ce sont les efforts que l'on fait avec la conscience que l'on a en fonction de ce que l'on est, c'est-à-dire que nous sommes, en gros, des chrétiens.
Radio Sofaya, 88.5, toujours plus proche de vous.
Toujours avec la Commission diocésaine Justice et Paix, deuxième partie de notre émission concernant la conférence débat qui a eu lieu à Basse-Terre sur le thème « Droits de l'homme face à la réalité guadeloupéenne ».
Aujourd'hui, on est dans un monde où on a le sentiment que la médecine a toutes les solutions, que l'homme peut se sauver par lui-même. Ça aussi, c'est important. Pas de le comprendre parce que j'ai pas envie de donner de leçons, mais la conception qu'on a de notre place dans le système, elle est hyper importante. Si on considère qu'on est créature de Dieu et que c'est Dieu qui nous a fait, tout ce qu'on parle là, ça découle assez facilement. Et donc, la difficulté, c'est qu'il y a certains établissements qui ont des gens à leur tête qui sont peut-être pas croyants, mais qui se disent si c'est bien pour le malade, eh bien, on fait le nécessaire parce que ça apporte quelque chose au malade. Qu'on soit croyant ou pas, qu'on croive que ça sert ou pas, ça participe à la guérison du malade, en fait, à son fonctionnement. Et donc, c'est là où revient vraiment la question qu'il a posée tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, qu'on le veuille ou pas, on a tendance à penser qu'on a les solutions et que bon, il est entre les mains d'un médecin, ben, on n'a pas besoin qu'un prêtre vienne, il n'a pas besoin d'être écouté. D'ailleurs, s'il a besoin d'être écouté, ben, c'est le travail d'un psychologue, etc., etc.
À propos de ça, Robert, il ne faut pas craindre le mot athée, parce que chaque monde a une liberté d'expression, chaque monde a une pensée à eux, donc ça, c'est le respect. Chaque monde a pensé ça, vous voulez. Mais tu as une pensée à eux, c'est respecter la pensée à eux. Parce que ce qui est plus grave, que un monde qui est athée, mais qui a bafoué à la main, ou yen qui connaît la parole, et qui a gardé de haut et de haut.
À quel moment est-ce que vous dites, allez là, dans toute discussion, nous tous en attendre, à quel moment c'est la responsabilité individuelle de chacun. Parce que c'est nous à savoir, en introspection, les nous, pour nous savoir ce que nous voulons. Un petit modèle de société, nous voulons vivre. Le vivre ensemble, ça n'a pas qu'un qui fait comme ça. Hein. Faut au moins si, ouais. Nous ne pouvons pas parler de l'hôpital, qui n'ont pas le monde, mais ils sont milliers qui, disons, difficiles. Ou ni des gens qui ont après Covid là. Ils ont ce médicament qu'on a, suivi par des psychologues. Hein. Ou nous avons un système global qui a imposé nous des bitins, qui nous veut, qui ne nous veut pas. Et c'est à nous à savoir réagir sur ça et à savoir fonctionner avec ça. Parce qu'elle a vu ensemble, quand on sortit, dit, ça n'a pas qu'un qui fait comme ça. Gilles qui a parlé des entrepreneurs côtiens, ou à un système qu'on a où la réalité économique si réelle, on va prendre un exemple simple, hein? Vendredi Saint sorti passé, réalité guadeloupéenne, ou le vendredi Saint, à la limite, peut-être une moins importance qu'on a pour les gens du monde, il y a une importance. Entreprise Jaloux, et ça c'est pas une invention, hein? Entreprise les témoignages là, ou les entreprises Jaloux, qui a dit, oh, vendredi, c'est nous pas fermé parce que nous savons tout le bitin pas qu'elle fonctionner, mais ils ont obligé de poser une journée congé. Hein. Le respect de l'autre, des philosophies et des confessions, ça n'a pas d'importance. Et c'est nous à ça, en finalité. À dans ce système global là, nous parlons de l'être on ne peut pas parler d'être pour moi, ma conduite est mauvaise. Nous avons un système global qui a fait que nous avons subi des influences. C'est à nous de décider. En qui société qui nous voulait vivre et en qui gens nous voulons vivre.
Oui, alors moi je voulais revenir sur le mot aimer. Pour moi en fait, aimer, ça relève d'une volonté. Vouloir aimer, et quand on veut aimer, on fait les efforts qu'il faut pour pouvoir aimer, avec l'aide ou pas, selon qu'on soit croyant ou pas. Mais ça témoigne de la volonté. Et comme disait une publicité récemment que j'ai entendue, mais plus on essaye, et plus on a de chances d'y arriver. Donc ne pas se décourager. Je voulais revenir également, pour moi c'était essentiel, la prise de conscience, quel que soit le milieu où on est, c'est-à-dire un milieu professionnel, dans la famille, qu'on soit dirigeant. Alors c'est vrai que c'est peut-être plus facile en tant que croyant, parce qu'on a quand même des réactivations régulières avec les célébrations. On approfondit un petit peu nos prises de conscience. Bon, ceux qui ont des convictions fortes, ben, je pense qu'ils arrivent également à maintenir le cap. Maintenant, ceux qui sont un petit peu au gré du vent, c'est vrai que là, il y aurait un travail de s'ancrer au fur et à mesure, un peu plus, chaque jour. Avoir cette prise de conscience, qu'elle soit d'abord individuelle, ensuite collective, bien sûr.
Lors de l'invitation à cette conférence débat sur les droits de l'homme face à la réalité guadeloupéenne, on avait aussi envoyé un questionnaire aux personnes afin de pouvoir les préparer à aujourd'hui. Écoutons un peu ce que cela a donné.
Je vais poser la première question, donc qui figurait sur le questionnaire. Que comprends-tu en tant que citoyen guadeloupéen dans ta vie de tous les jours et en Guadeloupe d'une manière générale? Qu'est-ce qui te montre que ces droits sont appliqués un peu partout ou totalement? Quels sont les obstacles à exercer certains droits? Alors, est-ce qu'on peut réagir? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent réagir sur cette question-là?
Pour les obstacles, je dirais peut-être le manque de dialogue constructif. On est souvent tout de suite dans l'affrontement, dans la violence. Alors c'est vrai que beaucoup qui s'affrontent disent oui, on a déjà épuisé pas mal de pistes. Ben, je pense qu'il faut avoir la volonté de vouloir communiquer le plus sereinement possible et au niveau des deux parties qui recherchent le dialogue.
J'ai dit, il y a aussi la lenteur des demandes déposées, hein, le temps de les traiter, tout ça. Donc, quelquefois, comme c'est tellement long, on est déjà dans le découragement et on ne poursuit pas.
Je dis que les obstacles, c'est l'égoïsme, la paresse, l'indifférence. Il y a une dame qui a parlé de volonté. Elle a raison. Et je finis par la citation de Julien Crène. Le monde est plein de bonnes intentions. Je veux seul être efficace. Mais toutes les intentions réunies ne valent pas une bonne volonté.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi la méconnaissance des choses? Quand tu ne connais pas, est-ce que tu peux exercer ton droit? Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils ont des droits. La méconnaissance des droits. Un problème concret aujourd'hui, la technologie, ordinateur. Il y a beaucoup de personnes d'un certain âge qui ne maîtrisent pas ça. Or, par exemple, aujourd'hui, pour avoir des droits à la sécurité sociale, il faut passer sur l'ordinateur, il faut passer ceci. C'est aussi un obstacle à ce que tu puisses exercer ces droits-là. La méconnaissance, la non-maîtrise de la technique en fonction de l'évolution du monde. Alors évidemment, dans 40 ou 50 ans, nos enfants pourront faire ça, mais c'est nous qui vivons aujourd'hui. Hein.
Oui, c'est la numérisation à l'extrême.
Voilà, la numérisation à l'extrême, voilà.
En face de cette modernisation, tout le monde n'est pas au même niveau de formation et d'évolution. Conclusion, quand nous on arrive, le client, enfin l'administré, il se bat pour arriver au bout de sa demande. Et il y a une lenteur, pour reprendre le terme de madame, il y a une lenteur en Guadeloupe, hein, ça, voilà. Il y a une lenteur qui fait que justement, parfois on oublie de respirer et de rester calme.
Où on abandonne. Et c'est vrai que les situations peuvent être dramatiques parce que derrière un dossier qui n'avance pas, il y a une personne qui souffre, il y a une personne handicapée qui ne peut pas avoir sa prothèse ou son fauteuil roulant, il y a un enfant handicapé qui ne peut pas avoir son aide, son auxiliaire d'éducation. Donc oui, derrière les dossiers, il y a souvent des souffrances humaines. Et
quand on parle d'obstacles, hein, il arrive souvent qu'on fait, disons, on fait une demande de logement. On vous dit que l'appartement est libre, donc vous êtes déjà tout content. Peut-être quand vous arrivez, on voit la couleur de la peau, mais excusez-moi, mais l'appartement est déjà pris.
Donc,
sur notre territoire, oui,
le racisme, oui. Le racisme est un obstacle. On oui, c'est clair.
On a parlé de la numérisation, mais bon, comme Robert donnait des pistes tout à l'heure, dans toutes les communes en Guadeloupe, il y a ce qu'on appelle des maisons France Service.
Oui.
Et ce sont des conseillers numériques qui sont là pour aider les gens qui sont éloignés du numérique à s'habituer. Voilà. Et c'est un service gratuit. Et ces gens-là qui sont là, ils ont même fait des ateliers pour apprendre vous manier portable. Et là où vous venez, ils peuvent aider à faire des marches.
L'autre jour, là, ils ont regardé entre la banque. Là. Et en radiant, ils ont regardé en colère. Entre la banque, là, on mamie vient là. Pour l'argent. Hein? Il était besoin de l'argent, certainement, en l'air et pas en yaï, anti-espèce en l'air et pas en yaï. Hein? Alors bon, il a occupé d'elle, mais il a bailli en quatre, puis il peut s'y fouer à un appareil là pour bailler l'argent là. Mais mamie là, pas au courant. Alors faut conseiller.
Conseiller financier.
Alors, petit garçon là, il a dit mamie là que oui. Il faut y apprendre tout ça. Alors, on a dit, regarde, bande ça, bougon moi. Est-ce que vous pas dit, mamie, là? Ah oui, mais il faut y faire, il peut faire vers petits enfants, hein, ni petits enfants, bien des enfants. Alors, dit, bah, on va raconter là. Ou quoi dit, il faut faire, mais là, regardez, peut-être pas ni les enfants ici en Guadeloupe, et peut-être si, même, peut-être, t'es ni en petits enfants. En dit, les autres savent bien, ça va passer. Il y a pas un petit enfant, compte et le gars, par exemple, le gars, il faut une confiance. Ça dit, le gars, il peut être un numéro au contraire. Peut-être qu'il prend tout petit l'argent en banque là. Hein? Alors, il a dit, est-ce qu'on comprend ça, garçon? Est-ce qu'on comprend? C'est mon âge dans situation pas possible.
C'est du bon hein? sens. Ouais. C'est du bon sens. Est-ce qu'il y a d'autres obstacles? Si on les a tous levés concernant la première question, on va passer à la seconde. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer encore sur les obstacles? Que nous avons identifié, je vais les rappeler, le manque de dialogue qui fait que nous passons peut-être trop rapidement à l'affrontement. Donc il faut avoir la volonté de communiquer le plus sereinement possible. La lenteur du traitement administratif peut décourager.
Quand on dit le manque de dialogue, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu. J'étais au supermarché et un monsieur qui s'amène, au moment où j'allais payer mes courses, il me dit « Je suis prioritaire, j'ai ma carte. » Je dis que c'est un manque d'information. c'est un manque d'information. Ouais. Je sais que vous avez votre carte. Bon, ben, on arrive, on s'excuse. Bon, ben, excuse-moi, monsieur, j'ai une carte de priorité. Ouais. Est-ce que vous me permettez de passer? Je ne vais jamais dire non parce que vous êtes prioritaire. Mais ne venez pas d'emblée, je suis prioritaire, je passe.
Oui, il y a la manière. Là, c'est un problème d'éducation, peut-être. Donc, je continue. On a parlé de la lenteur des traitements administratifs, mais on a évoqué également l'égoïsme, la paresse, l'indifférence, la méconnaissance de ses droits, la technologie, le fait que toutes les formalités sont numérisées, en tout cas une grande majorité, et puis le racisme.
Humblement, hein, parce que j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Franchement, justice et paix, merci. Alors, une petite expérience que j'ai vue depuis 8 jours, en rencontrant plein de gens divers, le pape qui va être élu sera noir. J'ai dit ça. Ah, tu vois, Robert, j'ai été traité de fou à chaque fois. Et je ne l'ai pas fait en toute provocation, pas du tout. Dans ma foi, le prochain pape sera noir. Et j'ai aucun problème avec ça. Le nombre de gens qui m'ont traité de fou, on ne revient pas là-dessus. J'ai un couple, c'est la deuxième expérience que j'ai, d'amis non, ils sont ici depuis peu de temps, et ils repartent en France au mois de juin. Il est cadre, on ne va pas parler de ça. La maman me dit l'autre jour, tu sais, à la sortie de la messe, j'ai hâte de rentrer. Ah bon, je dis pourquoi, on est bien là. Non, moi, mon fils, il s'est amouraché à la fac d'une petite, d'ici, j'ai hâte que ça s'arrête. Alors, c'est tout.
C'est violent.
C'est tout. Ça veut dire qu'on a enquisté en nous, malgré tout, des choses dont on a du mal à se défaire, et j'en sais quelque chose. Merci.
Moi, je vous donne ma position en tant que chrétien. Je souhaiterais qu'il soit dans la ligne de François.
Oui, c'est ça.
Bon. Voilà.
Deuxième question. Et en tant que chrétien, que comprends-tu à ton avis? Quel chemin, quelles actions et avec qui pouvons-nous agir pour aller vers une société plus juste et plus fraternelle dans notre archipel? Sur la question des droits de l'homme et de la justice sociale, quel chemin, quelles actions et avec qui pouvons-nous agir pour aller vers une société plus juste et plus fraternelle dans notre archipel?
Je vais répondre à ce que j'ai déjà dit. C'est le modèle de société que nous voulons, et à la limite, avec tout le monde. Il n'y a pas de barrière de confession. Gobineau, on boule son bouquin, là, avec l'inégalité des races. Moi, c'est pour ça que j'ai été un peu interloqué par la question avec qui, quoi. Ben, moi, avec tous les composants de la société guadeloupéenne, au final. Hein. Donc, vous avez précisé quelque chose, d'ailleurs, à Archipel. Bon, les saintes, on voit bien qui est-ce qui est aux saintes. Mais c'est pas ça le souci. Le souci, c'est quel modèle de société que nous voulons. Donc, le problème, c'est tous les gens qui veulent faire partie de cette société seront les bienvenus. Donc, nous, à la limite, on n'a même pas à se poser cette question, quoi.
Je voudrais, justement, par rapport aux actions, attirer un peu notre attention, parce que on a tendance à porter des critiques ou des jugements, et je reviens sur ce que disait Jean-Marie tout à l'heure. Évidemment que c'est une situation qui heurte, qui scandalise, mais en même temps, je pense qu'il faut qu'on ait aussi conscience que c'est des choses qui ont beaucoup évolué, quoi. Aujourd'hui, on oublie que, bon, là, elle veut partir pour écarter. Avant, quand il y avait une Indienne qui voulait se marier avec un Noir, on la prenait, on l'envoyait là-bas. Donc, en fait, ça, c'est pas vraiment nouveau. Mais il faut évidemment qu'on se batte contre ça. Mais je pense qu'en parlant, on a tendance à voir les problèmes, mais il faut aussi voir que ça a beaucoup évolué, que les choses ont beaucoup changé. Donc, dans les actions qui sont à mener, il y a encore des combats à mener, il y a des discussions, il y a des... Bon, pour moi, je pense qu'une fois de plus, l'Église a pleinement son rôle dans cette éducation-là. Mais si on ne s'assied pas de temps en temps pour dire les choses ont quand même évolué, bon, premièrement, ça décourage et on a l'impression qu'on n'avance pas. Et alors, je ne dis pas ça pour, qu'on dise que ce n'est pas la peine et que ça a beaucoup changé, hein. Mais il faut quand même de temps en temps se dire que les brassages de ce qu'elle a dit tout à l'heure, laisser les jeunes s'aimer, etc. Aujourd'hui, c'est de plus en plus vrai. On a des Guadeloupéens qui sortent avec des Éthiopiens, etc., etc. Et les choses se font. Et donc, il y a à combattre contre des choses qui sont encore à dénoncer. Mais si on ne prend pas la mesure des choses qui ont avancé, on aura l'impression qu'on se bat contre le vent.
J'allais faire une intervention, mais je crois que tu as presque tout dit, hein, en parlant de combat et des choses à avancer. Je n'ai pas peur de le dire, j'ai mon drapeau sous moi. Et comme j'ai dit au départ, il ne faut jamais se soumettre. En 81, quand on a commencé à lancer les associations de type nouveau, on a commencé, bon, n'ayant pas peur de le dire, c'était le mouvement nationaliste à l'époque, on a commencé à me parler de race dans une assemblée constitutive où il y avait au moins 300 personnes, hein, tout le gratin était là. J'ai dit à toi, je te dirai plus bonjour, toi, je te dirai plus bonjour, toi, je te dirai plus bonjour. Mais je ne me soutiens pas à vous. Je rentre dans le conseil d'administration de ce que vous avez monté et je vais faire ce qu'il y a à faire. Et aujourd'hui, je suis fier de ce que j'ai fait en 40 ans. Sur cet aspect-là. Donc le combat continue et il ne faut pas se soumettre.
La parole au père Blanchard. Vas-y, père. Ouais.
Avec qui?
Avec qui?
C'est la question. Alors avec tout le monde? Ça veut dire avec personne. C'est on. Je ne demande pas combien de vous, parmi vous, ont réfléchi personnellement ou avec d'autres personnes dans un groupe dont je fais partie ou qui ont réfléchi, qui ont pris du temps à réfléchir aux questions posées et envoyées à l'avance. Je ne sais pas, je ne vais pas vous demander non plus, lever la main ceux qui ont préparé. Vous faites tous partie de différents groupes de la société chrétienne, d'Église et de la société civile. Gros problème qui est derrière tout ça, c'est l'ignorance des droits de l'homme. Comme derrière, il y a l'ignorance de l'Évangile. Le travail en nous, c'est faire monde connaître l'Évangile, l'enseignement du Christ, et contempler sa pratique pour le connaître, l'aimer et le suivre. Alors voilà, il y a une question aussi dans ces petits exercices, même si on n'est pas nombreux, c'est pas grave. Je crois beaucoup à l'efficacité des petits groupes. Et donc, si chacun d'entre nous ici essayait, à la suite de cette rencontre, avec les mêmes textes, les mêmes questions, réfléchir avec quelques personnes d'un de nos groupes, soit du club de domino, ou... Parce que si je vous disais comment j'ai commencé à réfléchir avec des groupes en Guadeloupe sur les droits de l'homme, c'était un dimanche après-midi, j'étais curé de Port-Louis, et un groupe des hommes des abîmes m'avait demandé de venir au moins une fois par mois, ils se réunissaient tous les dimanches après-midi. Dans la salle paroissiale, le presbytère des abîmes au bout. Et puis, le dimanche après-midi, alors un dimanche après-midi, il y avait un qui avait fait la fête le midi, ça devait être un anniversaire dans la famille ou je ne sais pas trop quoi, mais qui était complètement bourré. Alors, de temps en temps, il dormait, de temps en temps, il poussait un cri, il disait quelque chose, et puis on causait, la réunion a continué, et puis à un moment, il y a quelqu'un qui a parlé des droits de l'homme. Et puis, les droits de l'homme, je reconnais qu'à ça y est, qui vient ça? Et puis la réunion continue, l'animateur continue sa réunion. Et puis on arrive à la fin de la réunion, et je leur dis, mais mon compère posait en question, la personne ne va rien répondre, non? Alors la réunion était prolongée, et puis tout le monde était en train d'avouer, mais à la maison, on ne m'a jamais parlé de ça. À l'école, on ne m'a jamais parlé de ça. À l'église, on ne m'a jamais parlé de ça. Et c'est à partir de là, je dis, allez chercher dans le dictionnaire ou dans Quid, pas tennis smartphone qui te éclairé tout partout quoi, à présent. Et on s'est donné pour le mois suivant, cette recherche-là, aller chercher les droits de l'homme
Et c'était en 97, l'année avant l'anniversaire des 50 ans des droits de l'homme, parce qu'ils ont mon âge, 1948. Alors en 1998, ça faisait 50 ans. Et donc, à partir de la question de ce fait tard, le groupe a commencé. Et c'est comme ça que petit à petit, à Justice et Paix, on a commencé à voir la question et qu'on a demandé à Hector Poulet et Sylvien Telfit de nous essayer de nous traduire tous les droits de l'homme, la charte des droits de l'homme en créole. Et on a commencé à réfléchir nous-mêmes là-dessus avec un peu le même questionnaire. Hein. Mi doigt là, quand il l'a dit exactement, et puis qu'il est à doigt là, ça ici, en pays là, etc. Et ça fait que pendant l'année 98, chaque émission de Radio Massabielle, c'était sur un article des droits de l'homme avec le même questionnaire. Qu'est-ce que ça qui dit là, quand ça avait dit le contenu de ce droit là? Et ensuite, quelle est la situation dans notre pays par rapport à ce droit-là? Il y a eu des témoignages, c'était d'une richesse formidable. Et donc, je me dis, c'est pas de refaire la même chose, mais c'est ça qu'il faut continuer. Alors, ce que je souhaite, c'est si, avec les éléments que vous avez, eh bien, de faire des petits pas avec d'autres personnes, de groupes que vous connaissez, soit dans la société civile, quelle que soit religion ayo, et quelle que soit ethnie ayo, culture ayo, ou bien à la communauté chrétienne, ces groupes-là, même si c'est les sacristines ensemble, même si c'est les catéchistes ensemble, mais c'est ça pour, avec qui faut nous voir des mondes précis et faire des petits pas avec eux, autrement nous allons enfoncer. Merci.
Je vais clore la séance. D'abord, merci beaucoup, Père Blanchard. Merci de nous avoir rappelé qu'on est chrétien dans le monde. Je voudrais remercier chacun d'entre vous, au-delà de sa présence, de la bienveillance, de l'attention que vous nous avez apportée, que vous vous êtes accordés aussi les uns des autres. Merci d'avoir attesté que vous êtes des chrétiens qui n'êtes pas tranquilles devant l'état du monde. Vous vous interrogez, vous vous questionnez, et puis surtout on sent une capacité à se mobiliser, et à se mobiliser dans l'action, à se mobiliser dans l'amour et dans le respect également. Alors on va se séparer là. Juste un petit regret, c'est qu'on n'a pas du tout parlé des droits de la femme. C'est pas quelque chose d'accessoire pour moi, c'est central. Peut-être que un autre. C'était oui, non, mais j'ai bien compris. Mais la femme aussi, elle a un grand F. Et donc. Oui. Tout à fait. Mais c'est peut-être un sujet qu'on voit. Aussi, tout à fait. Ben, il y a même la charte des animaux, hein. Donc tout le vivant. Oui. Oui, et donc nous sommes maintenant conviés à participer à la messe sous l'égide du Père Blanchard, Albert Blanchard.
Nous n'avons pas pu diffuser tout ce qui a été dit, mais imaginez bien que nous avons ce jour-là appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Les échanges étaient constructifs. Effectivement, nous avons conclu cette conférence débat par l'Eucharistie célébrée, présidée par le Père Albert Blanchard, qui est coordonnateur de la Commission diocésaine Justice et Paix. Allez, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une toute autre mission. Kemberet Pamoli, force.
Retrouvez chaque samedi 10h sur Radio Sophia Altitude l'émission Justice et Paix, animée par Domi.
École, catéchisme à Sainte-Rosemène.
Oui, nous étions au catéchisme au beau le mardi.
Une émission en partenariat avec Radio Massabielle. Justice et Paix donne la parole au monde associatif, politique, social, sportif, culturel.
Je crois qu'il faut quand même que on puisse remettre l'agriculture aux mains des enfants.
Le sport est un vecteur de relations sociales.
Justice et Paix, les problématiques sociétales avec une vision chrétienne.
Et aussi marcher aussi vers Dieu, marcher vers un idéal, marcher, c'est un but.